décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 2, ou peut-être semaine 3, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Christian.
Salut Luc.
Bon, eh bien, on vous a retrouvé, vous êtes rentré de vacances.
Enfin.
On sent qu'on t'a manqué.
Hein. Énormément. Donc, qu'as-tu trouvé pour la revue de presse Manu ?
Alors, 5 articles avec pas mal de sujets intéressants.
Alors, Le Parisien, VLC fait ses 3 milliards de téléchargements, retour sur une success story française par Damien Licata Caruso.
C'est énorme.
C'est considérable et ils sont tellement contents qu'ils ont fêté ça au CES, donc aux États-Unis. Et on entend parler jusqu'ici.
Bravo, Eve.
Contrepoint, Makers, la nouvelle révolution industrielle par Farid Gheam.
Tout un article sur une disruption du système économique. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le mettent en avant.
Toi, tu connais les vrais mots.
Exactement, la Startup Nation. Et donc, ce sont des outils numériques, mais qui ont cet avantage d'être libres, qui permettent de faire des objets.
Rude Baguette, l'Union Européenne lance une chasse aux bugs pour les logiciels libres par la rédaction.
Vous en avez déjà parlé ?
La semaine dernière, oui.
Exactement, mais ça n'empêche, le sujet, c'est l'Union Européenne s'intéresse aux logiciels et à la sécurité qui les comprend, et donc va payer, va donner de l'argent pour ça.
Capital.fr, Java, Firefox, Linux, leurs inventeurs ont rendu le web populaire par Benjamin Janson.
Ce sont des portraits de gens assez importants qui vont faire de l'informatique un peu avancée. Donc il y a du Java, il y a du Linux, plusieurs personnes. Allez jeter un oeil, ça permet d'avoir un peu de culture sur tout ce qui se passe là-dedans.
ZDNet France 2019, une opportunité unique d'agir pour la DSI digitale par Frédéric Charles.
Alors c'est une continuation de plein d'articles qu'on a fait. Les entreprises aiment le logiciel libre et ça leur permet d'évoluer et de changer. Et les DSI, les directeurs de services informatiques, ils se mettent eux-mêmes de plus en plus à l'informatique libre. Donc c'est plutôt pas mal pour nous.
C'est quoi le concept de DSI digital ?
C'est une direction du système d'informatique avec les doigts.
Comme les empreintes digitales, bien sûr. Alors le sujet de cette semaine ?
Cette semaine, on va parler d'assistants.
D'assistants digitaux ?
Avec la voix, ce sont ces trucs qui sont très à la mode.
Alexa, Siri et compagnie ?
Oui, OK Google, ce genre de choses, qui sont donc mis très en avant. On en parle tout le temps, c'était un peu le truc à offrir à Noël.
A priori, c'est un marché florissant à coût de milliards.
Évidemment, ça nous pose un certain nombre de soucis, mais c'était l'occasion de rentrer un petit peu en détail là-dessus, puisque c'est le moment.
Moi, le problème que ça me pose, que ce soit Alexa, Siri ou OK Google, c'est qu'on nous dit oui. Alors, ça prend en compte qu'à partir du moment où vous dites « OK Google ». Oui, mais pour qu'ils reconnaissent « OK Google », ça veut dire qu'ils t'enregistrent continuellement.
Oui, mais localement, a priori. Enfin, quand ça fonctionne, hein, parce que sinon, il y a déjà eu un bug où ils enregistraient des milliers de conversations dans les appartements pendant des jours et des jours. Mais c'est un bug, hein, ça, c'est pas comme ça tout le temps, il paraît. Oui.
Quand tu dis localement, ça veut dire que c'est sur ton ordinateur ou sur ton appareil ?
Sur la boîte.
Sur la boîte, ça veut dire que ça part pas sur Internet, a priori, et que c'est censé être traité localement, c'est ça ?
Le problème, c'est que comme c'est pas du logiciel libre, comment le savoir exactement ? C'est très difficile. On peut faire de l'analyse réseau. Bon, a priori, effectivement, ça ne part pas, mais...
Bon, vas-y Manu, dis-nous, c'est quoi un assistant ?
Alors, c'est une boîte, effectivement, un appareil qui est posé dans la pièce en général, la pièce de vie. En tout cas, c'est comme ça que c'est mis en avant. Mais ça pourrait être aussi dans une chambre, dans une voiture, dans une salle de bain. Et ça écoute en permanence et c'est supposé répondre à nos désir au fur et à mesure où on les évoque, un peu comme un majordome ou qu'on appellerait, auquel on donnerait un ordre. J'ai besoin d'un café et il se débrouille et il ramène un café. Alors pour un assistant digital, ça va plutôt être il n'y a plus de papier toilette, rachète du papier toilette et hop, il passe une commande sur internet.
Ça me rappelle une histoire de maison de poupée, non ?
Oui, cette histoire de maison de poupée, elle date un petit peu, mais c'est assez rigolo. C'est qu'en gros, comme par des commandes vocales, on peut acheter direct et qu'évidemment, tous les fournisseurs, en premier lieu Amazon, a intérêt à ce que les gens puissent acheter avec le moins d'efforts possible. Il y avait une gamine de 4-5 ans qui avait demandé une maison de poupée et le machin était paramétré de telle sorte que la commande a été passée, les parts ont été facturées, la maison de poupée a été livrée.
J'ai aussi une personne qui m'a raconté l'histoire de l'objet, l'article préféré à acheter. C'est-à-dire que quand tu appuies sur ta télécommande, sur un bouton particulier, ça t'achète ton article préféré. Et donc si tu fais pas attention, que tu laisses ta télécommande à un chat, un bébé, un chien, ce que tu veux, tu peux recevoir 26 000 fois ton objet préféré. Je trouve ça très drôle.
Ça peut arriver, effectivement. Alors juste pour préciser, parce que Christian, tu disais que sur ces assistants, tout le traitement de la voix, la reconnaissance vocale est censé être traité localement, c'est-à-dire dans la boîte qui est dans le salon, et pas censé ne pas être envoyé sur Internet. Une affaire qui touche pas directement les assistants personnels, mais qui était la téléconnectée de Samsung, et où des gens avaient vu un avertissement qui disait « Attention, si vous dites des trucs personnels, sachez que ce sera enregistré. » Et cette téléconnectée, en fait, n'avait pas l'intelligence à bord, puisque ça coûte cher, il faut mettre de la capacité informatique, et tout était envoyé par Internet sur un serveur en Corée, et où tout était transcrit. Donc même si les assistants ne le font pas. A priori, certains objets le font.
Donc là, cette télé, elle avait cette particularité de chercher à t'aider. Si tu te disais « change de chaîne, augmente le son, augmente le volume », elle écoutait, elle obéissait, mais elle n'écoutait pas que cela. Elle écoutait tout le reste du temps et c'était envoyé à Samsung en Corée. Alors, petit détail, c'était envoyé sans être chiffré, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sécurité. Et ça, ça avait fait le... c'était la petite goutte d'eau qui avait fait exploser le scandale.
Mais ça, c'était longtemps. Rassurez-moi, ça a amélioré maintenant, non ?
Peut-être.
Alors, a priori, la technicité d'une boîte comme OK Google ou Alexa, plutôt solide, de ce qu'on en sait. Mais les traitements qui sont derrière, eux, ne le sont pas encore. On sait qu'il y a eu des cas de problèmes où on a enregistré des conversations qu'on n'aurait pas dû enregistrer et ces conversations ont été retransmises aux mauvaises personnes. Mais on sait aussi que les gens qui travaillent dans ces entreprises peuvent avoir accès à des enregistrements personnels de manière indue. Il y a eu un petit scandale il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Amazon, où les travailleurs d'Amazon avaient accès facilement à tous ces enregistrements pour aider les clients, mais qu'il n'y avait aucune vérification en interne, sachant que Amazon, c'est gigantesque, il y a des milliers d'employés, et qu'il y avait des employés qui n'auraient pas dû avoir accès à tous ces enregistrements très privés, qui avaient quand même accès, donc ça a fait un petit scandale. Ils ont dit qu'ils allaient corriger le problème, hein, et garantir que seuls les gens qui avaient usage allaient avoir l'accès, mais ça n'empêche, techniquement, c'est pas très difficile de le faire.
Mais alors du coup, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on est obligé d'envoyer des données à l'extérieur pour arriver à traiter.
Un minimum, oui, puisque souvent l'objectif, c'est notamment de faire des achats. Et donc, si tu veux acheter sur Internet, il va bien falloir que tu aies des données qui sortent.
Alors ça pourrait voilà. Être des données finales, et dans le sens de la question Christian, les données de traitement, elles, pourraient rester en local. Alors, on sait que la nouvelle Freebox de Free va intégrer un assistant vocal. En tout cas, c'est mis en avant comme ça, on n'a pas encore regardé les détails, Alexa. Mais il semblerait qu'ils ont prévu de pouvoir désactiver cet assistant vocal et que, de manière intégrée, il y a un deuxième assistant vocal qui est aussi embarqué dans la Freebox. Mais lui, il est local, il ne discute pas sur Internet pour ses traitements et il permet de contrôler la Freeboîte, donc de changer les numéros de chaîne, d'augmenter le volume. Et ça, c'est supposé être local. Alors, c'est peut-être aussi parce que techniquement, c'est plus simple à gérer, je ne sais pas. Donc ça ne fait pas tout, ça fait moins, mais on a peu moins de risques d'envoyer des commandes sur des serveurs Internet qui ne sont pas contrôlés. Pardon.
Et le code source de la Freebox, il est accessible ?
Alors, des grosses parties du code source de la Freebox sont accessibles parce qu'ils font plein de trucs en logiciel libre, mais je ne sais pas si la partie assistant vocal est intégrée là-dedans. Faudrait regarder.
Une des problématiques, c'est que Amazon, notamment, c'est un des GAFAM et que leur business consiste à récolter un maximum de données sur les gens. Et évidemment, on se doute que cet assistant vocal qui intervient sur tout, c'est quand même une manne d'infos hyper intéressante. Et est-ce qu'ils vont se retenir de mettre la main sur ces données-là ? Non. Enfin, je veux dire, même s'ils disent « Non, non, mais c'est juste pour te vendre des trucs », ils vont te dire « Oui, mais pour connaître tes habitudes, pour être vraiment précis, on a besoin de récupérer les infos, il faut qu'on sache ceci, cela. » Et derrière ce qu'ils en font, on a bien vu que Facebook a fait à peu près n'importe quoi avec les données, les a distribuées à droite, à gauche, et fait des expérimentations. Donc, en fait, ça donne quand même un pouvoir énorme et encore plus de capacité de surveillance. Notre activité sur Internet est déjà largement connue et potentiellement, toute une autre gamme d'activités peut être enregistrée, traitée et maîtrisée par ses fournisseurs.
Ça va très loin. Les téléphones portables sont des appareils qui peuvent faire assistants vocaux, hein, et ils en intègrent. Siri, c'est le cas. Donc, on a toujours avec nous des micros qui sont en permanence allumés. Enfin, un micro, c'est techniquement, il n'est pas désactivé quand il est en place. Et tous ces assistants vocaux, ce sont des micros qui sont là en permanence. Parfois, ils intègrent des caméras. Ça aussi, ça va commencer à se mettre en place pour nous aider, hein, pour vérifier qui sonne à la sonnette, qui rentre chez nous. Ça peut avoir une utilité pour suivre les gamins, qu'est-ce qu'ils font. Il y a des gens qui ont des caméras pour regarder leur chat chez eux dans la journée. Mais tout ça, ça peut aller loin parce que ça passe par Internet, ça passe par des grosses sociétés.
Mais fonctionnellement, c'est magnifique. C'est HAL 2001, l'utilité de l'espace. C'est de la science-fiction qui devient concrète.
Tu cites le film qui finit mal quand même. Parce que HAL tue tout le monde, hein, je veux dire.
Oui, mais avant cela, il est sympathique.
Oui, mais
avant cela, il est plutôt agréable.
Pourquoi ? Parce qu'on lui a introduit une contradiction dans sa logique. Donc c'est une erreur humaine. Voilà.
Mais effectivement, Le jour où Alexa commence à avoir accès au couteau de la cuisine, il faut faire gaffe. Pour l'instant, Alexa a accès à notre carte bleue, ce qui peut déjà être embêtant. Ça peut déjà créer des problèmes, mais c'est pas des questions normalement de vie ou de mort. On n'en est pas là. Non, pour l'instant, c'est des questions essentiellement commerciales et de vie privée.
Oui, mais avec des enjeux très importants derrière. Enfin...
Des milliards. Et c'est probablement pour ça que les gars se battent autant pour installer des assistants vocaux chez tout le monde. Je pense que les Google, les GAFA en général, sont en train de perdre de l'argent probablement sur le développement de ces appareils parce qu'ils savent qu'une fois ces appareils installés, une fois que ces appareils utilisés, ils ont un accès à leur rêve, c'est-à-dire c'est-à-dire au salon des gens.
Les boîtes sont très peu chères. C'est très peu cher. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais c'est très, très peu cher.
Mais il doit y avoir un minimum quand même. Si tu arrives à traiter localement de la reconnaissance vocale, en plus, ça, j'imagine que ta reconnaissance vocale, il faut qu'elle s'adapte, qu'elle apprenne ta voix, qu'elle s'améliore,
non,
etc.
Non, ah non. Non, tu as un micro, hein, et le micro envoie le son au serveur des
Donc,
GAFA.
C'est
et
pas traité localement.
Qui... Alors, non, mais peut-être que le déclenchement lui-même, peut-être qu'il a un petit truc. Ouais.
La détection d'Alexa et de OK Google, d'un point de vue analyse de son, c'est relativement facile à faire. Et d'ailleurs, il y avait des produits qui existaient dans les années 80 pour déjà réaliser des commandes, des fauteuils roulants, ouais, par exemple. C'était pas... Mais c'était très, très limité.
C'était Microsoft qui, pendant des années, a dit « Ça y est, on a le logiciel, vous allez parler, puis il va faire la transcription. » Et à chaque fois,
IBM.
Ça foirait.
Pas que, mais...
C'était IBM. Ouais. Et tous les 3 ans, 4 ans, ils se plantaient. Ça marchait jamais.
Moi, j'en aurais rêvé, hein, pour le groupe transcription, un logiciel qui me fasse ça. Hein.
Un jour, ça viendra. Mais en tout cas, les fonctionnalités sont superbes, mais il y a moyen de se passer des GAFAM et de ces grands systèmes pour arriver à les réaliser. Pour regarder son chat en vidéo chez soi, on n'a pas besoin de faire passer le flux vidéo par les États-Unis et les serveurs d'Amazon.
Non, mais les serveurs d'Amazon vont te permettre de commander les croquettes du chat. Et là, Amazon, ils vont être enchantés, ils vont se frotter les mains. Les croquettes du chat, c'est des milliards de dollars.
Mais si ton système, il parle le chat, il peut commander ses croquettes tout seul.
Alors, oui. Et Mac parlait tout à l'heure d'un bouton sur lequel on appuyait pour faire une commande. Oui, et c'est exactement ça, pour que le chat puisse appuyer sur un bouton et commander lui-même.
Ces assistants, il y a aussi des contre-performances. C'est Next Impact. Ils ont fait un test, ils ont essayé de commander une pizza avec Alexa. Et ils ont galéré, vraiment, en s'apercevant que commander une pizza, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a plusieurs tailles de pizza. Il y a plein de pizzas différentes.
Il faut pas oublier l'adresse et le mode de paiement.
Voilà, et puis tu peux mettre des options. Tu peux dire, ah oui, je voudrais un peu plus de fromage, un peu de ceci, un peu de cela. Je veux une boisson, je veux le payer. Et leur truc, ils ont vaguement réussi à obtenir une pizza, mais ils étaient très loin d'avoir ce qu'ils voulaient. Et c'était finalement beaucoup plus compliqué que de tapoter sur une appli sur un téléphone portable.
Est-ce que derrière, il y a des vraies intelligences artificielles qui sont capables de traiter comme ça des sujets très complexes?
Oui, parce que tu veux dire que les enjeux économiques sont tels que peut-être parfois on peut passer outre l'intelligence artificielle.
Ah mais carrément, il y a un excellent article dans le journal Le Monde du 3 janvier qui est intitulé « Derrière l'illusion de l'intelligence artificielle, la réalité précaire des travailleurs du CLIC », où il y a une anecdote fantastique du jeune diplômé qui rentre dans une boîte et qui est passionné d'intelligence artificielle, et c'est une boîte qui, pour les célébrités, leur propose des produits adaptés à elles spécifiquement, et du coup il se dit « Ouais, elle est où votre intelligence artificielle ?» Ils sont où les serveurs ? Je peux les voir. Et puis en fait, il fait tous les bureaux de l'entreprise et il n'y a rien. Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous arrêtez pas d'appeler en Inde ?» Ah, parce qu'on n'a pas d'IA, en fait. On n'est pas capable de le faire, ça coûterait trop cher. C'est trop compliqué, donc en fait, on sous-traite.
C'est une IA, une intelligence indienne.
On retombe sur les problématiques qu'il y a aussi avec la voiture autonome, exemple, le milieu naturel, etc. Il est complexe. Et moi, j'ai une période de ma carrière professionnelle, j'ai géré des activités d'information, de relations clients, et dans des domaines de l'information dans le voyageur, dans le transport public. Déjà, pour savoir ce que veut quelqu'un, d'où il part, où il va, quel horaire, etc., etc., c'est compliqué. Souvent, les données sont incomplètes, notamment dans toutes les bases de données de transport, etc. Il y a plein d'erreurs.
Parfois fausses.
Et les gens ont également, ne serait-ce que par rapport à cette question d'espace, ils ont des noms qu'ils utilisent au quotidien et qui ne sont pas nécessairement les noms qui sont dans les systèmes cartographiques. Et dans le transport public, c'est compliqué parce que dans certaines lignes, en fonction des dates, ça marche pas, etc. Et les gens qui font ce boulot-là, en fait, ils sont obligés d'aller chercher l'info à la pêche et vraiment d'aller les sortir, enfin, pas tout le monde, hein, mais souvent aller les extraire au forceps. Et donc, ça demande de l'intelligence et ça demande de comprendre...
De l'intelligence naturelle.
Voilà.
Ceci dit, on peut supposer que c'est une question de moyens et de temps parce que, vraisemblablement, il y a des enjeux économiques qui font qu'il y a une grosse motivation pour arriver, ou en tout cas pour aller dans cette direction-là. Et donc, les assistants, donc les majordomes de maison qui sont personnalisés, qui, comme dans les films de science-fiction, répondent à tous nos besoins, il y a des gens qui bossent dessus, des gens très intelligents. Donc, peut-être qu'ils n'arriveront pas à une solution ultime, hein, c'est ouais, clairement, pour moi, il y a mais cette... ils vont avancer.
Ouais. Pour moi, il y a cette hypothèse, hein, je ne l'affirme pas de façon absolue, que pour réellement comprendre quelqu'un, il faut être intelligent. Et que du coup, le jour où une intelligence artificielle arrivera à comprendre réellement des humains, sachant que les humains ont des fois du mal à se comprendre entre eux, ça veut dire alors que ce ne sera plus une intelligence artificielle, mais que ce sera une intelligence pleine et complète et qu'on aura un ordinateur conscient. On est très 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 loin, on n'a pas le début du commencement de l'idée de comment on pourrait faire ça.
Bon, alors, des petites boîtes peuvent quand même rendre service sur des commandes simples. Changer une chaîne de télé, c'est pas très intelligent. Ouvrir la porte du chat, c'est pas très intelligent. Et donc, heureusement, il y a des projets libres d'assistants vocaux qui naissent, qui éclosent. Et donc, pour en citer un, Mycroft, qui est basé sur du Raspberry. Un Raspberry, c'est vraiment pas puissant, donc ils arrivent quand même à faire des choses intéressantes. Plusieurs dizaines de commandes. Donc, si on veut quand même s'amuser, a priori, il y a de quoi faire dans le monde du libre. Une fois de plus, on n'a pas besoin des GAFAM pour avancer vers le futur.
Plein de trucs à construire dans le monde de l'informatique libre. Et donc, on va y travailler cette semaine, hein. On reviendra avec un proto lundi prochain.
Et on sera remplacés, nous
Oui, bien sûr. Allez, bonne semaine tout le monde.
À la semaine prochaine.
Salut.
Salut.